Parashat Pinchas. Parashat Pinchas. On a une parasha assez, assez agitée. Et je voudrais rentrer un peu sur un point que je pense important, qui ressort un peu de cette anecdote assez effrayante, j'ai envie de dire, de Pinchas et le meurtre, entre guillemets, qu'il a commis suite à l'événement de Parashat Pinchas. L'histoire, elle est connue. Moi, je voudrais m'arrêter sur deux sujets qui ont l'air un peu anecdotiques, deux questions qui ont l'air anecdotiques, mais je pense qu'ils révèlent quelque chose d'important, de fondamental sur la personne de Pinchas. Première chose, si on va à la synagogue, et on a eu la paracha la semaine dernière, et on va la relire cette semaine, paracha de Pinchas, chaque semaine, on va lire la paracha, on remarque que, de manière très bizarre, l'histoire de Pinchas est partagée en deux, coupée en deux. C'est-à-dire que l'histoire même, l'acte de Pinchas, est raconté la semaine dernière dans la paracha, les derniers versets de paracha de Balak. La paracha nous raconte que Pinchas, il a rentré l'épée, il a fait ce qu'il a fait. Et cette semaine, il n'y a pas l'histoire de Pinchas. Cette semaine, c'est la fin de l'histoire. À savoir la récompense de Pinchas, Dieu va le récompenser. Et c'est très bizarre parce que c'est une petite histoire importante. On va passer une semaine dans le suspense. Si on ne va pas savoir si Dieu il est d'accord, il n'est pas d'accord, si c'est bien ce qu'il a fait, si c'est pas bien... C'est un temps très important parce qu'on a un doute nous-mêmes si l'action était bonne ou pas. Moshe Rabbeinu a douté, tout le monde a douté. Nos sages vont jusqu'à dire que tout le monde s'est moqué de Pinchas. Tout le monde a rappelé ses origines idolâtres. Donc, ce temps qui attend entre l'acte de Pinchas jusqu'à la confirmation d'Akadosh Baruch Hu, elle dit beaucoup sur Pinchas lui-même. Comme si la Torah elle-même ne veut pas se précipiter pour te dire que c'était bon. Non, laisse-moi une semaine. Et je voudrais comprendre qu'est-ce que cette récréation, qu'est-ce que ce hefsek, cette attente entre la semaine dernière et cette semaine, et le nom. Ça, c'est le premier détail qui m'interpelle sur cette paracha. Et là, je vais passer à la fin de la paracha. Et là, je pense, il y a une expression en hébreu, on dit « apil shebacheder », l'éléphant qui est dans la salle. Ça crie de tous les côtés, mais ce n'est pas clair. C'est-à-dire qu'à la fin de la paracha, Dieu va demander à Moshe Rabbeinu de choisir son successeur. Et son successeur va être Yoshua. Dieu va dire, tu prendras Yoshua. Ça en lui-même, bon, il n'y a pas de problème, il faut bien un successeur. Mais le timing de mettre cette anecdote dans cette paracha, juste après l'acte héroïque de Pinchas, Moshe cherche un successeur, et ce n'est pas Pinchas qui va être choisi, je pense que si ça serait cette anecdote sur une autre paracha, je n'aurais pas dit ça. Mais le fait que ça tout de suite après l'histoire de Pinchas, et on voit que quand même, c'est quelqu'un qui a fait un geste, un acte que même Moshe hésitait. Il a été, c'est le shalom, c'est toutes les grandes récompenses les plus grandes. Il a les qualités d'un leader, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui est désintéressé, donc il fait les choses que personne n'a envie de faire ou tout le monde a peur de faire. Et donc c'est presque un leader naturel. Je ne connais pas le caractère de Yoshua et ses choix. Ses choix courageux dans son histoire ou même son érudition, elle n'est pas connue à part qu'il a amené Netilat Yadayim pour Moshe Rabbeinu. Et donc le fait que tout de suite après Pinchas, j'ai envie de dire qu'il y a un message aussi. Non, ce n'est pas Pinchas qui va être choisi. Et donc ces deux points-là, le temps qu'on va prendre avant d'avoir la récompense d'un côté, et de l'autre côté, le fait que cette semaine, on va choisir le successeur qui ne va pas être Pinchas, je pense que ça fait réfléchir à un point ou à un sujet qui est autour de la personne de Pinchas que je voudrais partager avec vous. Peut-être, c'est une idée. Et pour comprendre ça, pour illustrer cette idée que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais aller un peu en arrière. C'est une idée assez spéciale, mais j'ai envie de la partager. C'est le bon endroit. On va en arrière. Quand on va en arrière, une histoire dans Parashat Shmini, c'est-à-dire dans Sefer Vaikra, on a l'histoire des fameux enfants de Aaron, Nadav et Avihu, qui sont morts le jour de l'inauguration du Mishkan. Le premier du mois de Nissan, il y a l'inauguration du Mishkan, tout le monde est très 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 content, on attendait ce Mishkan, c'était un peu la confirmation que Dieu a pardonné la faute du veau d'or, et donc c'est une journée très très importante. Et là, il y a une tragédie que tout le monde connaît, à savoir les enfants de Aaron qui vont servir le Mishkan. C'est énorme. Ils vont finir par mourir, brûlés par un feu qui descend du ciel. Cette anecdote-là, pourquoi j'en parle maintenant ? Parce que comme plusieurs anecdotes dans la Torah, c'est une anecdote incroyable dans le sens que la Torah ne va jamais nous dire la raison de leur meurtre. On sait qu'ils sont morts d'un feu étranger, c'est la seule information qu'on recevra, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est, à cause de quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait. Les Mefarshim, je pense que les Yakar vont nommer jusqu'à 10 ou 13 raisons. Les pauvres, ils n'ont rien fait. On leur a mis 13 parce qu'on ne sait pas c'est quoi lequel, du coup, ils en ont 13. Et donc, on ne sait pas en réalité. La Torah, elle a un flou assez spécial en disant il y a un feu étranger, ils ont, écrivez-vous, ils ont sacrifié un feu étranger, je ne sais pas ce que ça veut dire, et ils ont été punis pour ça. C'est des gens qui sont kadosh, la Torah elle-même dit Bikrovaya Kadesh, c'est des gens qui sont respectables, saints, des tzadikim énormes, mais on leur reproche un feu étranger et on ne sait pas ce que ça veut dire. Et ça donnera une spéculation, entre guillemets, de raisons, ils ont parlé comme ça, ils ont dit ça, ils sont rentrés, ils ont bu, enfin toutes les explications qu'on connaît. Et moi je voudrais enlever toutes ces explications, essayer de mettre sur la table quelque chose peut-être qui nous rappelle Pinchas. Et pourquoi j'ai pensé à ça ? Parce qu'il y a un midrash qui m'a tilté sur ce lien, mais qui vient en vérité, qui n'a aucun rapport a priori, mais je pense que ça donne quelque chose sur cette idée. Le Midrash nous dit sur cette journée extraordinaire de l'inauguration du Mishkan, qu'il y avait une femme. Mizot Ola Min Hamidbar, le Midrash dit, il y a une femme extraordinaire le jour de l'inauguration qui était la femme la plus heureuse de l'histoire. Pourquoi ? Parce que toute sa famille était mise à l'honneur. Le Midrash nous fait une liste de toute sa famille. Je vais en prendre trois, parce que c'est les trois du sujet d'aujourd'hui. Et cette femme-là, c'est Elisheva Bat Aminadav, la femme de Aaron. Ok ? Elle était là, elle était tellement joyeuse. Le Midrash dit, son beau-père, son beau-frère, c'est Moshe Rabbeinu, il est Melech, et son frère, et toute la liste. Et il y a trois noms qui sautent là-bas, qui sont les noms de notre Shiur. Et là-bas, il dit, son frère de Elisheva, c'était Nachshon. Nachshon ben Aminadav, son frère, là, le Midrash dit, il était content parce que son frère, il est devenu Nassi, il est devenu Yehuda, il est devenu Nassi. Le prince de la tribu de Yehuda, son frère était le prince, donc c'était une femme heureuse, son frère était prince de la tribu de Yehuda. Et le Midrash dit, ses enfants à elle, Nadav Aviou, Kohanim, ils vont servir. Et son petit-fils, Pinchas, justement, comme ça le Midrash dit, Pinchas, son petit-fils, Mashouach Milchama, il va être loin pour la guerre, c'est lui qui va motiver les troupes pendant la guerre de Midian. Donc c'est une femme très épanouie. Son frère, ses enfants et ses petits-enfants ont tous un rôle incroyable. Et j'ai pris ces trois noms, son frère, ses enfants et ses petits-enfants, Pinchas, parce qu'il y a quelque chose chez les trois. Il y a un point commun chez les trois qui font que toutes les questions qu'on a posées aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est la faute de Nadav Aviou, qui est Pinchas, et par rapport à ça, on va comprendre c'est quoi Nachshon, qui mettent sur la table une hypothèse. Quelle est cette hypothèse ? Alors, j'ai essayé d'expliquer de manière la plus simple. Je pense réellement que dans le judaïsme, on a des maîtres. On a les Avot, on a des Rabbanim, on a des maîtres qui sont des exemples pour nous. Mais la Torah, dans notre paracha à nous, comme dans l'histoire de Nadav Aviou, et comme dans l'histoire de Nachshon, elle nous fait connaître des maîtres qui sont des maîtres, des saints, mais pas des exemples. À savoir, j'ai envie d'imaginer un musée du judaïsme où il faut accrocher des portraits des gens que c'est très très important qu'ils soient accrochés dans nos salons et dans nos musées, mais il ne faut surtout pas leur ressembler. Il y a une liste comme ça de personnes que c'est important, leur don au judaïsme, c'est hyper important, mais attention, dites à vos enfants de surtout pas les ressembler. Et c'est important, je pense, des gens comme ça, des tzadikim, des personnalités. Ils sont spéciales, ils sont peut-être marginales, ils sont incompris, mais ils doivent exister. C'est des kdoshim, ils amènent quelque chose. Et ces trois-là, je pense, c'est d'abord l'exemple le plus frappant. Il y en a d'autres, et chaque génération, je pense, il y en a. Les enfants de Aaron, écrivez-vous Esh Zara. C'est quoi Esh Zara ? Un feu étranger. Qu'est-ce que c'est étranger ? Étranger, ça veut dire c'est étranger à nous. On ne va pas être comme eux, mais c'est du feu. Ils ont eu un comportement, les enfants de Aaron, d'une volonté de s'approcher du temple jusqu'à donner leur vie. Il y a des tzadikim comme ça, qui sont dans la Kabbalah, on appelle ça Ratzo Blishuv. Ils ont une soif vers Dieu et ils oublient le monde. Ils oublient. Ils s'en fichent du monde matériel. Ils ont voulu, et c'est très bien, c'est des Gdoshim. Mais c'est zar, c'est étranger pour nous. Et dites à vos enfants, regardez ces tzadikim, comment ils sont incroyables. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils sont prêts à donner leur vie pour Dieu. Ils ne veulent pas se préoccuper du monde matériel. Ce n'est pas notre conception de notre judaïsme, parce qu'on doit faire le lien entre eux. Mais ça doit exister. C'est un esh qui est zar, mais ça doit exister. Mettez les photos des enfants de Aaron et dites Bikrovaya Kadesh, ce sont des Gdoshim. C'est des gens qui sont incroyables. Et dans l'histoire, ils resteront comme ceux qui ont sacrifié leur corps pour se mettre, pour s'unifier avec Kadosh Baruch Hu. Bravo, magnifique, magnifique. Ensuite, bah justement, on rentre dans Pinchas. On arrive à Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aaron Hakohen. C'est exactement le même. Pinchas, il a fait un geste. Il a tué quelqu'un qui a fait une avéra, qui a transgressé. Est-ce qu'on doit ressembler à Pinchas? Hachem, Ishmor, Veyatzil, que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui dit à son fils, ressemble à Pinchas, garde l'épée dans ton cœur, dans ta poche. Si tu vois quelqu'un qui mange des crustacés, commence à l'aiguiser. Hachem, Ishmor, où on va arriver à ça? Et pourtant, Pinchas, il a une place incroyable dans ce fameux musée de Kazer et Eve Altiye. Regarde, mais ne sois pas. C'est important, ça. C'est très, très important. Et je pense aussi, par exemple, Narshon, le frère d'Elisheva, c'était le même personnage, c'est un personnage incroyable. Rappelez-vous que la Torah ne nous dit pas qui a ouvert la mer. Narshon, on le connaît parce que c'est celui qui est le premier qui est rentré dans l'eau, et l'eau est arrivée jusqu'à là. Et la Torah ne nous parle pas de... La Torah ne nous dit pas, elle peut donner un détail, qui a ouvert la mer, c'est quand même un détail important. La Torah dit, la mer s'est ouverte. Alors, je comprends que c'est un midrash, mais il y a des fois que la Torah, elle aurait pu... Rombrim le Fargen, c'est pas n'importe qui... Cette extrémité de Narshon, elle est importante, mais j'essaye simplement de rester raisonnable. J'aime pas l'extrémité. Nos sages vont jusqu'à dire que Narshon était le bras droit de Korach. Quand t'es extrémiste, t'es extrémiste. Un jour t'es là, demain t'es là-bas. Les athlètes, c'est pas donné à tout le monde. C'est important que ça existe, mais c'est pas donné à tout le monde. Et Madame Elisheva, qui a un frère qui est Narshon, qui a des enfants qui sont Nadav Avio, et des petits-enfants qui sont des petits-fils qui est Pinchas, elle, quelque part, elle a une famille de... Tout le monde est rentré au musée pratiquement, mais on les regarde et on ne les ressemble pas. Et c'est très important. C'est pour ça que je pense, notre paracha à nous, ben, on ne va pas nommer Pinchas. Et c'est important que je le dise. Parce que c'est important que je dise que Pinchas a reçu la récompense. Pinchas, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais je vais te dire que je ne vais pas le nommer. Et d'ailleurs, je prendrai une semaine pour te dire si ce qu'il a fait, c'est bien ou pas. Léat. C'est pas pour nous, c'est pas pour tout le monde. Ça restera dans la Torah. Il y a un nom de Pinchas dans la Torah, mais avec le recul qu'il faut. Il faut rester raisonnable dans le sens de Shulchan Aruch, etc., etc. Et celui qui va illustrer ça pour finir, l'illustration quelque part de ce personnage vient après dans la Gemara, parce que je dis que c'est chaque génération. On va le trouver par exemple dans le personnage de Ben Azaï. Ben Azaï qui était un Tana, un des sages du Talmud. Là-bas, Ben Azaï lui-même, c'est hallucinant, il dit que c'est important d'avoir des enfants, c'est une obligation dans la Torah d'avoir des enfants, et celui qui n'a pas d'enfants, il est considéré comme chauffeur d'amim, comme un, Dieu nous en préserve, un assassin. Et la Gemara demande, mais Ben Azaï, t'es quand même, t'as pas eu d'enfants, toi, il s'est même pas marié. Il dit, Ben Azaï, c'est vrai, moi je suis pas marié parce que je voulais étudier, je suis un cas extrême, je vais étudier. Et donc on voit qu'il y a des personnages qui disent clairement, la règle c'est évidemment d'avoir des enfants, et celui qui n'a pas d'enfants, c'est un assassin. Mais il faut savoir que Ben Azaï, il existe aussi. Ça existe. Et c'est tellement important de développer cette curiosité. Nahon, on a tous un Bet Hamidrash, on a tous une Shita, on a tous un Rav, on a tous un exemple. Mais la Torah, elle te dit, écoute bien, le judaïsme, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et chacun, des fois, c'est des tzadikim ou des rabbanim ou des gens qui amènent quelque chose qui n'est pas forcément une route tracée pour nous, mais ça doit exister. Et ça existe. Et cette semaine, c'était Pinchas. Voilà, Rabotai.